Vous écoutez France Culture.
Bonjour et bienvenue à tous dans Science Publique. Merci pour votre fidélité aux émissions de Science sur France Culture. Comme toujours, vos réflexions et commentaires sont vivement attendus sur notre site au sujet de notre débat d'aujourd'hui. Que nous apprend le satellite Planck sur les origines de l'univers ? La genèse de l'univers vue par la cosmologie n'a pas grand-chose de commun avec celle de la Bible. Elle ne manque pas pour autant de poésie. Peu après le Big Bang, l'univers n'était peuplé que de particules. Difficile d'imaginer qu'il n'existait alors que des protons, des électrons et des photons. De plus, les interactions entre les électrons et les photons créaient un épais brouillard. L'univers était alors trop chaud pour que la matière puisse se former. Ensuite, peu à peu, la température a baissé et elle a atteint les 2700 degrés lorsque l'univers avait 380 000 ans. C'est alors que les protons et les électrons ont pu commencer à se combiner pour former les premiers atomes d'hydrogène, et d'hélium. Ce phénomène a par ailleurs libéré les photons qui ont commencé leur long voyage. Le plus extraordinaire, c'est que la lumière qui est apparue alors est toujours perceptible aujourd'hui, plus de 13 milliards d'années plus tard. En fait, il ne s'agit plus d'une lumière visible, mais d'un rayonnement qui emplit tout l'univers. Les astrophysiciens le nomment fond diffus cosmologique, et ce sont deux d'entre eux, Arnaud Penzias et Robert Wilson, qui l'ont découvert par hasard en 1965. Cela leur a valu d'ailleurs le prix Nobel de physique en 1978. Encore fallait-il enregistrer ce rayonnement qui nous renseigne sur l'état de l'univers 380 000 ans seulement après sa naissance. Ce fut la mission du satellite WMAP lancé par la NASA en 2001 et qui a livré ses résultats en 2003. Cette première carte du rayonnement fossile révélait de nombreuses irrégularités alors que les physiciens pensaient que l'univers était homogène à cette époque. D'où l'envoi d'un second satellite, Planck, lancé en 2009 depuis Kourou par une Ariane 5 et dont la mission était de vérifier les étranges anomalies captées par son prédécesseur. Que nous apprennent les résultats des mesures de Planck publiées par l'Agence spatiale européenne le 21 mars dernier? Quelles sont les conséquences de ces résultats sur notre compréhension de la formation de l'univers? Les mesures de Planck nous renseignent-elles sur les grandes inconnues que sont la matière noire ou l'énergie noire? Remettent-elles en cause les grandes théories actuelles concernant le Big Bang, l'expansion de l'univers ou le modèle standard de la physique des particules? Pour aborder ces questions, nous recevons aujourd'hui dans Science Publique, en direct depuis le studio 1061 de la Maison de la Radio, Nabila Aghanim, qui est cosmologiste, chercheur au CNRS, à l'Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay, Aurélien Barraud, astrophysicien, professeur à l'Université Joseph Fourier de Grenoble, et chercheur au laboratoire de physique subatomique et de cosmologie du CNRS, Hervé Doll, astrophysicien, maître de conférence à l'Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay, et Alain Riazuelo, chargé de recherche au CNRS. Trois de nos invités, alors Nabila Aghanim, Hervé Doll et Alain Riazuelo, sont des membres de ce que l'on appelle la collaboration Planck, c'est-à-dire qu'ils ont chacun joué un rôle dans l'analyse des résultats obtenus grâce à ce satellite. Je vous rappelle que vous pouvez bien entendu nous communiquer vos commentaires, vos réflexions et vos témoignages sur le site de Science Publique sur franceculture.fr. Alors Alain Riazuelo, bonjour.
Bonjour.
Ça fait des mois, des années que vous attendiez les résultats qui ont été publiés le 21 mars par l'ESA. Alors, quelle a été votre première réaction lorsque vous avez vu cette nouvelle carte du ciel fournie par ce satellite?
Alors la carte, je l'avais déjà vue un peu avant puisque j'avais accès aux données. Cette carte, c'est l'aboutissement de beaucoup de travail, un travail qui s'étale sur plus de 20 ans pour les plus anciens membres de cette collaboration. Et qui est là pour nous rappeler que l'univers recèle encore beaucoup de mystères, mais qu'il y a beaucoup de choses qu'on commence à bien cerner quant à sa composition, quant à sa structure, quant à son âge. Et donc cette carte doit être vue comme un rapport d'étape où elle confirme beaucoup de choses qu'on pensait déjà savoir. Et elle nous indique qu'il y a encore un certain nombre de choses qu'on ne sait pas et dont on ne sait absolument pas quand on arrivera à les savoir.
Alors on va effectivement apporter quelques précisions sur les choses qui sont révélées par cette carte. Nabila Aghanim, bonjour.
Bonjour.
Vous nous expliquiez juste avant l'émission que vous avez passé une bonne partie, voire la totalité de votre carrière sur cette maniple, comme on l'appelle, c'est-à-dire sur ce calcul et sur cette mission Planck avec tout ce qui a été fait avant, j'imagine, et tout ce qui a été fait après. Alors, quelle était, vous, votre réaction quand cette carte a petit à petit, j'imagine, au fil des calculs, montré cette nouvelle image de l'univers?
Mais en fait, c'était une grande émotion. Une grande émotion parce que, effectivement, comme le mentionnait Alain tout à l'heure, je fais partie des anciens qui ont participé à cette expérience, à cette manip depuis le début. J'ai commencé à travailler dans le cadre de la collaboration Planck alors que je débutais ma thèse de doctorat. Et c'est vrai que finalement, c'est un aboutissement personnel, mais aussi un aboutissement collectif. La collaboration Planck est une très grande collaboration qui compte,
combien de personnes,
qui compte environ entre 400 et 500 personnes réparties dans le monde entier, finalement, essentiellement en Europe, mais avec des collaborateurs aussi aux États-Unis, au Canada. Et c'est une très, très belle entreprise collective qui aboutit de fait à mettre ensemble énormément de talents, des talents très divers, des talents en théorie, en instrumentation, en compréhension des données, en compréhension des méthodes informatiques, des méthodes informatiques, des méthodes numériques, tout ça pour essayer de faire avancer encore plus la science et la compréhension humaine de l'univers.
Donc, et l'émotion, c'était lié à ça, à cette synthèse, tous ces efforts.
Et lié aussi au fait qu'on réussit effectivement, finalement, quelques décennies à avoir un modèle pour comprendre notre univers, et ce modèle fonctionne bien. Enfin, c'est encore pas mal de questions, mais finalement fonctionne bien. Donc je trouve ça assez fantastique.
Hervé Dole, bonjour.
Bonjour.
Vous aussi, troisième membre de la collaboration Planck. Quel a été votre rôle dans ce travail?
Le rôle, c'était pour moi de m'intéresser à un contaminant du rayonnement cosmologique qu'on appelle les galaxies.
Un détail.
Voilà, de la broutille, mais qui est beaucoup gênant. Et pour rebondir sur la question que vous posiez, sur l'émotion, c'est vrai que l'émotion, moi je n'utilise pas trop ces termes, parce que l'image, on l'a vue progressivement, même en fait après les deux premières semaines d'observation. Là, il y a une vraie émotion, parce qu'on voyait la température des détecteurs s'abaisser jusqu'au point nominal, ce qui était une prouesse technologique et mondiale, faite par les Européens et le consortium en général. Et quand on a vu cette première petite carte du premier survey, où on voyait déjà les grumeaux du fond cosmologique comme jamais on les avait vus, deux semaines de Planck, c'était déjà plusieurs années de WMAP. Là, il y avait une vraie émotion, parce qu'on voyait ce qu'on cherchait depuis des années. Mais entre cette première image qu'on a eue, donc il y a, je ne sais même plus quand, en août 2009, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? L'analyse qui a été faite, elle n'a pas énormément changé. Ce qui a vraiment beaucoup changé, c'est la compréhension très très fine de tout ce qui contamine, tout ce qui affecte le signal, une mesure très précise des barres d'erreur. Donc c'est la vraie partie scientifique. Et puis un dernier mot peut-être à ce sujet-là. Je pense qu'on en a autant appris sur nous-mêmes que sur l'univers, parce que, comme le suggère Nabila, on est très nombreux dans cette collaboration, mais aussi on est de très nombreux chercheurs d'horizons divers. Pour faire simple, en gros, il y a les physiciens des particules d'une part et les astrophysiciens d'autre part, qui ont des manières d'aborder les problèmes et les manips d'une manière peut-être pas orthogonale, mais en tout cas très, très différente. Et ça n'a pas été toujours simple. On a tous en tête des conflits variés dans nos têtes, mais ça fait partie d'un aboutissement humain. Et pour nous, c'est un mélange, en tout cas pour moi, d'aboutissement scientifique, d'aboutissement de la sociologie de la science. Ce qu'on a réussi à faire ensemble est quand même assez extraordinaire.
Très bien, on va préciser tout ça. Aurélien Barraud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous depuis Grenoble, mais on n'entend pas du tout la distance dans votre voix, parce que le son est très bon. Vous êtes en duplex, et donc vous ne faites pas partie de la collaboration Planck vous-même, mais vous venez de publier un livre qui s'appelle « Big Bang et au-delà, balade en cosmologie » chez Duno début mars. Alors, quelle était, vous, votre réaction lorsque vous avez découvert cette carte, peut-être moins tôt que ceux qui travaillaient directement sur les résultats du satellite ?
Oui, officiellement, on va dire ça. Vous savez, à l'échelle cosmologique, Grenoble est confondue avec Paris. Hein, donc, on peut effectivement considérer qu'on est presque mitoyen. Ben, je me souviens parfaitement, il y a une vingtaine d'années, quand j'étais encore lycéen, de l'effet que fit sur moi la publication d'une carte identique, mais de bien moins bonne qualité, par le grand-père de Planck, qui était l'expérience Kobe. À la fois par sa plastique et par sa chromatique, si je puis dire, cette image m'avait profondément impressionné. Je crois qu'elle a joué un rôle fondamental dans ma vocation. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est avec une sorte à la fois d'émotion et d'humilité aussi que j'observe ce résultat magnifique. Je crois qu'avant même de tirer les conséquences, et ça nous prendra du temps, l'ensemble des conséquences cosmologiques de ces mesures, il faut s'émouvoir et s'impressionner de leur simple existence. Parce qu'on est vraiment à la limite du faisable, à la limite du pensable. Et c'est peut-être finalement la définition de la science. On est toujours en train de jouer avec les limites, les frontières, les linéaments. Et ça, c'est merveilleusement exemplifié aujourd'hui par Planck.
Alors évidemment, on parle d'une image et à la radio, c'est pas ce qui passe le mieux. Mais pour nos auditeurs, évidemment, l'image en question est sur le site de Sciences Publiques, dont vous pouvez vous y référer pour avoir sous les yeux l'objet de notre émission aujourd'hui. Et justement, peut-être Alain Riazello, essayer d'expliquer en quelques mots qu'est-ce qu'on voit sur cette carte.
Alors, sur cette carte, on a une sorte d'instantané de l'univers tel qu'il était 380 000 ans après le Big Bang. Donc si on fait une bête règle de 3, 380 000 ans par rapport aux 13 milliards et demi d'années, c'est un jour par rapport à un siècle. Donc on voit le même objet, mais à une époque extrêmement reculée. Et à cette époque-là, il n'y avait donc aucune galaxie, aucune étoile qui s'était encore formée. La matière était répartie de façon presque parfaitement homogène, mais pas tout à fait. Donc il y avait des régions un peu plus denses et donc un peu plus chaudes que d'autres, d'autres un peu plus froides et ainsi de suite. Et donc c'est ce genre de choses que l'on est en train de voir avec Planck. Alors on peut essayer de trouver une sorte d'analogue. L'univers primordial est très opaque alors que l'univers actuel est transparent. Donc voir cette image de l'univers primordial, c'est comme regarder vers le Soleil. L'espace entre la Terre et le Soleil est transparent, donc on voit très bien. Puis dès qu'on arrive au Soleil, ben, le Soleil étant opaque, on ne voit que la surface. Et à partir des petites irrégularités de la surface, en fait, on va interpréter ces irrégularités comme des sortes de vibrations qui parcourent l'univers primordial, comme on voit des vibrations à la surface du Soleil. Ces vibrations se propagent plus ou moins profondes dans le Soleil, de même que ces vibrations dans l'univers proviennent d'une époque plus ancienne. Et donc, à partir de cette vue en surface, on essaie de remonter vers des époques encore plus anciennes et par suite de reconstituer le contenu matériel de l'univers, voire avoir une idée des processus physiques qui se sont déroulés très tôt dans l'univers pour justement provoquer ces petites vibrations.
Alors, il y a une des caractéristiques qui est souvent mystérieuse pour ceux qui ne sont pas cosmologistes, c'est de comprendre comment on peut observer, Hervé Dohl, ce qui s'est passé 380 000 ans après le Big Bang, c'est-à-dire il y a plus de 3, il y a environ 13,5 milliards d'années. Comment aujourd'hui peut-on avoir jeté un regard comme ça avec un satellite sur cette époque ?
Eh ben c'est une belle épopée. Le principe, c'est que l'univers était quand même très brillant, même s'il était opaque. Il y avait beaucoup de lumière et cette lumière n'a pas disparu. C'est pour ça que je dis parfois, sous forme de boutade, que la nuit n'est pas noire. C'est-à-dire toute la lumière qui est générée au début de l'univers ne disparaît pas. Donc cette quantité de lumière est phénoménale et on arrive à l'observer aujourd'hui, alors non pas dans le domaine visible, mais dans le domaine des ondes radio. On dit micro-ondes quand on traduit de l'anglais, mais c'est vraiment des ondes radio et submillimétriques.
Ça veut dire que la lumière a changé un peu de fréquence.
Elle a changé de fréquence.
Au fil du temps, elle s'est...
Au fil du temps, elle s'est décalée vers le rouge, l'expansion de l'univers aidant. Et donc, il est quand même très difficile d'observer ce rayonnement. Néanmoins, je voulais signaler qu'il y a quand même beaucoup d'énergie dans ce rayonnement. Et ce qu'on fait pour le détecter, ce qu'ont fait Penzias et Wilson, vous la rappelez, en 64-65, ils ont utilisé un radiotélescope à la bonne fréquence qui permet de l'observer depuis la Terre, même derrière l'atmosphère, enfin sous l'atmosphère. Et c'est ce qu'on fait par exemple en TP à l'université en ce moment, dans les années Bac plus 4, Bac plus 5, avec des petits télescopes. On arrive à refaire ce que faisaient Penzias et Wilson. La différence quand même entre une petite manip aujourd'hui qu'on fait sur l'étoile de l'université ou Planck, c'est qu'avec la petite manip, on n'observe qu'un seul point dans le spectre, c'est-à-dire dans les couleurs ou dans les longueurs d'onde, comme vous préférez, ou les fréquences, alors que Planck observe ce rayonnement sur une grande étendue spectrale. Et pourquoi on a besoin d'une grande étendue spectrale? C'est pour permettre de soustraire tous les rayonnements qui nous gênent. Parce que dans le ciel, il n'y a pas besoin d'être astrophysicien pour comprendre qu'il y a des étoiles, il y a notre galaxie, il y a des galaxies, il y a des amas de galaxies, il y a plein d'objets astrophysiques qui nous gênent.
Alors c'est ce que vous appelez les avant-plans?
On appelle ça les avant-plans dans le jargon de Planck. Moi, en fait, j'étudie les avant-plans, donc ça m'intéresse particulièrement. Évidemment, le fond cosmologique est d'un intérêt central, mais pour ma recherche...
Donc entre nous je m'en intéresse pas. Cette époque,
oui.
Il y a tout ce que contient l'univers.
Il y a tous les avant-plans qui nous gênent parfois, à contrario, qui nous renseignent sur pas mal de processus intéressants. Par exemple, pour observer de nouveaux amas de galaxies, Nabila en parlera bien mieux que moi, ces avant-plans, entre guillemets, nous permettent de révéler la matière qu'il y a entre le fond cosmologique et aujourd'hui. De même, avec d'autres techniques un peu plus complexes, on arrive à mesurer le potentiel de la matière intégrés sur la ligne de visée. Donc à la fois ce sont des contaminants, mais ce sont des contaminants extrêmement riches qui nous renseignent sur comment on est passé d'un univers très très homogène. Il faut oublier que la petite image, enfin l'image dont vous parlez, a des petits grumeaux qui sont d'amplitude extrêmement faible, 10-5 en relatif. Aujourd'hui, les contrastes de densité dans l'univers sont beaucoup plus importants. 10 puissance 20, 10 puissance 30, ça dépend où on regarde. Donc on essaie de comprendre comment tout ça se structure et arrive aux objets d'aujourd'hui. Donc à la fois les contaminants nous gênent, mais aussi nous renseigne sur l'histoire depuis le rayonnement fossile à peu près 380 000 ans après le Big Bang.
Nabila Aghanim, une des choses qui est absolument remarquable aussi dans cette manip, c'est le fait que le rayonnement observé aujourd'hui est extrêmement froid. C'est-à-dire qu'il a fallu un exploit technologique, là, qui n'est plus purement scientifique, dans ce satellite pour arriver à le capter.
Oui, tout à fait. Alors, c'est le rayonnement fossile dont vous parliez à une température qui est de l'ordre de 2,7 degrés Kelvin. Le zéro degré Celsius étant à moins 273.
Donc, il est à moins 270 degrés Celsius.
Exactement. Bien entendu, une observation ou un rayonnement aussi ténu d'un point de vue de la température ou d'un point de vue de l'énergie qui est contenue ne peut pas être détecté avec aussi simplement qu'on pourrait le faire pour du rayonnement classique de type optique. Et donc, la prouesse technologique dans le satellite Planck, ça a été de finalement construire, si je peux le dire un petit peu en boutade, le réfrigérateur le plus perfectionné du monde, au sommet duquel on a monté des détecteurs un peu comme des CCD d'appareils photo, on appelle ça des bolomètres, pour pouvoir refroidir donc ces détecteurs, les refroidir à une température qui est de l'ordre de 0,1 degré Kelvin, donc 100 millikelvin, et avec cette température très basse, pouvoir recueillir les photons, l'information, le signal cosmologique du fond diffus cosmologique.
Et le tout dans l'espace.
Le tout dans l'espace. Alors, le tout dans l'espace, parce qu'il faut absolument s'assurer de la stabilité de la réponse. On voit bien que les détecteurs étant tellement sensibles, tellement froids, n'importe quelle petite perturbation, de la lumière parasite, des perturbations mécaniques ou n'importe quel autre type de perturbation, peut affecter la mesure et donc rendre l'exercice de l'analyse ou de l'interprétation des données très, très complexe. Du coup, l'espace est l'endroit idéal, parce que c'est un endroit idéal en termes de la stabilité thermique. La température est à peu près la même et elle ne varie pas. C'est un espace idéal parce que c'est aussi mécaniquement stable, au sens où on n'a pas de vibration du sol ou autre. Et on s'abstrait de toutes les émissions de réflexion qu'on peut avoir sur Terre ou autre. Et la prouesse technique de Planck pour réaliser cette expérience, cette manip, c'est en fait de monter les uns après les autres des refroidisseurs. Donc on commence par refroidir le satellite de manière, on appelle ça passive, on le laisse prendre la température de l'espace, puis on passe à des refroidissements plus actifs, au sens où on a des machines, des frigos, et on en compte, il y a 4 étages de refroidissement, et le tout dernier permet aux détecteurs les plus sensibles du monde dans l'espace de fonctionner, ce qui fait en fait que Planck aujourd'hui est l'objet le plus froid dans notre espace pour mesurer le rayonnement le plus lointain relatif à l'origine de notre univers.
Je vous rappelle que vous écoutez Sciences Publiques sur France Culture en direct depuis le studio 1061 de la Maison de la Radio et nous débattons aujourd'hui de la question que nous apprend le satellite Planck sur les origines de l'univers avec nos invités Nabila Aghanim, cosmologiste, chercheur au CNRS, à l'Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay, Aurélien Barraud, astrophysicien, professeur à l'Université Joseph Fourier de Grenoble et chercheur au laboratoire de physique subatomique et de cosmologie du CNRS, Hervé Doll, astrophysicien, maître de conférence à l'Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay, et Alain Riazuelo, chargé de recherche au CNRS. Alors justement, Aurélien Barraud nous disait tout à l'heure qu'il avait, dès son enfance, dès ses études, été fasciné par ce que faisait, effectivement, je n'avais pas cité l'arrière-grand-père de Planck qui était Kobe, puisque entre les deux, il y a eu WMAP, le satellite américain. Et alors, aujourd'hui, sur la contemplation de ce résultat, Aurélien Barraud, est-ce que ça remet en cause certaines des choses que vous aviez acquises en termes de compréhension des origines de l'univers et de ce qui se passe justement après le Big Bang, puisque c'est le thème de votre dernier livre?
Oui, je crois qu'il faut prendre du temps. Voilà, c'est une moisson de données extraordinairement riche. La collaboration Planck a d'ores et déjà mené un grand nombre d'interprétations qui sont évidemment d'excellente qualité. Pour aller au-delà et pour en extraire toute la quintessence, il faudra regarder très en détail. Ce qui frappe avant tout, c'est que le modèle standard, le modèle de concordance, c'est-à-dire essentiellement la relativité générale d'Einstein, qui nous apprend que l'espace est en expansion, hein, l'expansion de l'univers, ce n'est pas un mouvement des corps, c'est une dilatation de l'espace lui-même, que cette relativité générale, suppléée par la physique des particules élémentaires, fonctionne extraordinairement bien pour décrire l'histoire de l'univers. Donc au premier ordre, je dirais que Planck, c'est une confirmation éclatante de ce que l'on savait déjà. Si on en restait là, ça serait sans doute un tout petit peu décevant. Et bien évidemment, il y a quelques surprises, il y a quelques tensions, il y a quelques imprévus. Et c'est ensuite aux théoriciens, c'est à nous d'essayer de comprendre s'il s'agit de simples fluctuations statistiques, c'est-à-dire de phénomènes absolument contingents, ou s'il s'agit de prémices, de signes, comme ça presque de traces d'une nouvelle science, d'une nouvelle physique, qui reste évidemment à inventer.
Alors c'était ça l'enjeu en fait, juste avant, pour ceux qui ne connaissaient pas les résultats à l'avance, puisque ceux qui sont dans la collaboration Planck évidemment les avaient, mais la question vue de l'extérieur était de savoir si la physique allait être bouleversée, si les théories actuelles allaient être chamboulées.
Vous savez, ça se passe presque jamais comme ça. Les grandes révolutions n'ont pas lieu du jour au lendemain sur une mesure. Même pour les grands bouleversements du passé, pour la mécanique quantique, pour la relativité ou même pour la théorie de Newton, il faut un peu de temps pour mettre les choses en place. Donc l'image d'Épinal, comme ça, d'une science révolutionnée du jour au lendemain par une mesure, n'est, je crois, pas très sérieuse. Il se peut que ces mesures, comme celle du LHC, remettent fondamentalement en cause nos convictions et nos acquis, mais il faudra pour ça un peu de distance.
Alors, au LHC, c'est un peu différent. On cherche quelque chose que l'on a prévu d'avance et qu'on essaie de vérifier, c'est-à-dire le boson de Higgs. Là, pour ce qui est des mesures dans l'espace, la question, Alain Riazuelo, c'était de savoir si elles allaient être conformes au modèle actuel, c'est-à-dire au modèle standard, dont vient de parler Aurélien Barraud, ou bien à d'autres théories cosmologiques. Est-ce que la révolution que certains attendaient, finalement, ne s'est pas produite ?
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'avec des mesures beaucoup plus précises qu'avant, le modèle qu'on utilisait avant a passé ce nouveau test. Donc c'est en ça qu'on peut parler de confirmation de choses qu'on pensait savoir. C'est-à-dire que il n'y a pas de raison nouvelle de douter de ce qu'on pensait savoir. Mais ce qu'on pensait savoir est basé sur de la physique que l'on ne connaît pas, en laboratoire. La fameuse matière noire, par exemple. Donc, ces confirmations rendent d'autant plus pertinentes les questions qui étaient ouvertes jusque-là de quelle est la physique nouvelle que l'on doit rajouter à la physique connue pour expliquer l'univers. Et à ce titre-là, Planck commence à apporter des éléments de réponse. Par exemple, pour interpréter certaines mesures en physique des particules, les gens avait envisagé l'existence d'une nouvelle particule qu'on appelle des neutrinos stériles. Ces neutrinos stériles ont vu leur existence très fortement remise en question par Planck parce que l'influence attendue de ces neutrinos stériles sur les données de Planck ne se voit pas, par exemple. Donc Planck, en confirmant, je dirais, le modèle canonique qui existait, ferme aussi peu à peu les portes à des alternatives parfois farfelues, parfois tout à fait crédibles, qui avaient été envisagées, et fait le tri entre les différentes possibilités qu'on envisage aujourd'hui pour aller au-delà de la description phénoménologique de ce qu'est l'univers.
Hervé Doll, alors c'est une déception pour ceux qui attendaient que la physique soit bouleversée, qu'une nouvelle physique, on parle sans arrêt de nouvelle physique. Je suppose qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce qu'il y ait une nouvelle physique. Il y a des théories multiples qui n'ont pas été vérifiées et qui attendent justement une vérification un peu expérimentale.
Exactement. Pour abonder dans le sens d'Aurélien, il faut du temps. Et Planck, alors il y a deux éléments à ma réponse. Le premier, c'est que l'année prochaine, dans à peu près un an, les données de Planck de la totalité de la mission seront publiées. Là, nous n'avons publié que, disons, une première moitié, pour simplifier. Et l'année prochaine, nous aurons un signal de polarisation qui permet de lever certaines dégénérescences et d'aller beaucoup plus loin dans l'analyse. Donc là, le temps est notre allié. La deuxième chose, c'est que Planck avait été conçu dès le départ pour être la mesure ultime de la température de ce rayonnement. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire des sciences, ce rayonnement est mesuré avec une précision qui n'est pas limitée par l'instrument, mais limitée par le bruit de photon lui-même du rayonnement. Et ça, c'est quand même un saut dans la précision des données que... Pour ma part, je n'ai jamais encore vécu. On est toujours limité souvent par le bruit des télescopes.
Il n'y aura pas de mission pour approfondir ou pour préciser le résultat. Il est définitif.
De la température du fond cosmologique. C'est là qu'il faut être un tout petit peu précis, oui. Parce que la polarisation, évidemment, Planck apportera et révolutionnera notre vue de l'univers. Mais s'agissant de la polarisation, d'autres manips futures vont évidemment explorer avec une beaucoup plus grande précision que
nous. Pour la température,
c'est fini. Donc, Planck a été prévu pour ça. Et nous, collectivement, les scientifiques et les contribuables qui ont financé Planck, livre à, je peux employer les grands mots, à l'humanité, mais en tout cas livre à la communauté et à tous ceux que ça intéresse, l'image la plus précise, c'est pour ça qu'on utilise ce terme, on ne se fait pas mousser pour le plaisir, c'est l'image la plus précise de la température du fond cosmologique, parce qu'il n'y aura pas de carte plus précise, et c'est un héritage que nous laissons aux scientifiques actuels et futurs.
Alors, Nabila Aghadib, beaucoup de confirmations, mais il y a quand même dans cette carte quelques petites, ce que vous appelez anomalies, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas exactement conformes à l'image que l'on a de l'univers homogène, etc.
Oui, certes. Donc, des anomalies ont été
identifiées. Elles existaient déjà dans la précédente carte. Elles ont été confirmées, en fait.
Exactement. Et en fait, c'est en ce sens que l'apport d'un point de vue de la mesure ultime ou la mesure la plus précise renforce la potentielle crédibilité qu'on peut apporter à ces anomalies. Elles existaient, on les confirme, on ne les explique pas encore. Et c'est là où le travail des théoriciens, le travail de l'interprétation, le travail de créativité scientifique intervient. Parce que les mesures qui avaient été faites précédemment par le satellite WMAP pouvaient être sujettes à caution, étant donné la qualité très grande de la mesure faite par WMAP, mais néanmoins limitée par certaines caractéristiques instrumentales. Aujourd'hui, on arrive avec le satellite Planck, avec la finesse de la mesure, avec la compréhension qu'on a du ciel et des autres émissions que le fond diffus cosmologique, ce que vous appeliez tout à l'heure les émissions d'avant-plan, avec toute cette compréhension, on arrive finalement à se dire, il y avait des prémices d'existence d'anomalies, maintenant on les voit, elles sont relativement significatives d'un point de vue de la statistique, de la probabilité de leur existence, et maintenant il faut vraiment être créatif et travailler sur les questions fondamentales posées par ces anomalies-là. Je pense que Planck apporte un fondement, enfin renforce le socle du travail de la cosmologie. Et ça, c'est vraiment important. Ça renforce un socle et donc ça permet à tous les théoriciens de l'univers primordial, du Big Bang, mais aussi les théoriciens qui essayent d'expliquer comment se forment les galaxies, les amas de galaxies, de travailler dans un cadre établi, dans un cadre qu'on comprend bien et de se poser les réelles questions qui sont pourquoi, comment, étant donné le cadre actuel. Et ça, c'est vraiment très important. Et c'est en ce sens où, si je peux rajouter juste une petite phrase, le fond diffus cosmologique est pour moi un point particulier dans les observables de l'astrophysique, parce que ça permet, comme l'expliquait très bien tout à l'heure Alain, de sonder avant les 380 000 ans, c'est-à-dire sonder l'origine de l'univers. Mais en fait, les irrégularités qu'on voit sur le fond diffus cosmologique nous permettent d'avoir le tout début de l'histoire des structures cosmiques, des galaxies, des amas de galaxies, et donc d'avoir en fait ce double regard, cette espèce de yin et yang. On voit le début et on voit aussi la fin, ou en tout cas le début de la fin.
Allez, Riazello, ce qui est formidable quand même, c'est que ce qui avait été publié, ou les résultats donc, de satellite précédent, WMAP, présentaient des anomalies qui étaient réalisées, obtenues dans un cadre moins précis que Planck, et ce sont exactement les mêmes que l'on trouve avec Planck. Voilà. On aurait pu avoir aussi des anomalies ailleurs, ou différentes.
Une anomalie résultant d'une mesure unique, on ne peut jamais lui faire confiance. Voilà. Quand vous avez deux équipes complètement différentes, qui sont quand même un peu en concurrence, même si elles ont travaillé à quelques années d'intervalle, qui ont à gérer des instruments qui sont basés sur des technologies différentes, etc., etc.
Et que bah, finalement, assez concurrente quand même. Je précise que une équipe était américaine et l'autre européenne. Et
oui, d'accord, mais je veux dire,
dans une extraordinaire harmonie.
Voilà. Mais le satellite WMAP a été conçu pour être lancé rapidement avec une technologie conservatrice, alors que Planck était plus ambitieux et donc arrivé après. Donc il n'y a pas eu de course au premier arrivé, finalement. Certes. Le premier arrivé était le moins précis et c'était normal. Donc en ce sens-là, la concurrence n'était pas aussi féroce que peut-être entre les deux détecteurs du LHC, où là, s'il y en a un qui trouvait quelque chose avant l'autre, ça devait être un peu embêtant. Donc le fait que deux équipes différentes trouvent la même chose, ça nous rassure quant au fait que il y a effectivement des petites anomalies dans les données dont il est difficile aujourd'hui de savoir qu'en penser. Est-ce que c'est sans intérêt ou pas? Est-ce que c'est, d'un point de vue statistique, c'est un peu dans la zone grise? C'est suffisamment marqué pour que ce soit normal qu'on y fasse attention, mais c'est pas aussi fort pour qu'on puisse parler de découverte, au sens que donnent les physiciens des particules à ça. Et donc, il faut laisser encore un peu de temps aux gens pour réfléchir à ce que ça pourrait être, se convaincre que l'effet est réel, et ainsi de suite.
Aurélien Barraud, ces anomalies, comment vous les jugez vous-même ?
Bah, elles sont assez intéressantes parce qu'elles sont surprenantes. Elles sont tellement surprenantes que les modèles théoriques alternatifs les plus simples dont on dispose ne permettent pas d'en rendre compte. Alors, c'est une situation qui est toujours assez motivante parce qu'on est en ce moment en cosmologie un peu un tournant. C'est-à-dire qu'on a un modèle effectif qui fonctionne extraordinairement bien, mais on a un grand nombre d'inconnus, on a des tensions et des incomplétudes. Alors, on ne sait pas si on va améliorer la situation par un jeu subtil de petites améliorations locales, ou si au contraire il faudra recourir à un changement radical de paradigme. Alors la deuxième solution est évidemment la plus excitante, c'est un moment unique à vivre pour un scientifique. Je ne le sens pas poindre. Je crois plutôt qu'en l'état, les données de Planck viennent plutôt corroborer avec de légères inflexions ce qui était connu que donner les prémices d'un changement radical.
Hervé Dole, vous êtes sur la Babylie. Pas de bouleversement en perspective.
C'est pas vraiment.
Mais
comme
des anomalies, alors. Comment,
les anomalies,
qu'en
oui,
faire,
oui, bon,
qu'en faire.
À moins de 3 sigma, on s'en remettra.
Là, vous utilisez.
Oui, pardon, elles sont statistiquement. Est... Voilà, elles existent, on les mesure beaucoup plus précisément.
Donc il y a effectivement en particulier ce point froid en bas à droite.
Oui, hein, mais si vous voulez, ça me choque moins qu'on n'a peut-être pas encore parlé. On parlait des 6 paramètres, ou en tout cas le modèle de concordance qui est basé sur 6 paramètres, ou un peu plus si on veut, qui ajuste parfaitement les données, mais alors, parfaitement, là pour le coup, quasiment modulo cette petite anomalie. Il faut voir quand même que ce modèle d'une certaine beauté est quand même inconnu à 95% s'agissant de sa composition en termes de densité d'énergie. Donc à la fois, il n'y a pas de remise en cause, mais à la fois quand même, remettons-nous sur Terre, on ne sait pas ce que c'est que l'énergie noire, qui est à peu près aux trois quarts, enfin, vous avez les chiffres, et la matière noire qui est en gros pour un gros quart. Donc à la fois c'est merveilleux, c'est formidable, il n'y a pas de révolution, à la fois on met en exergue notre manque de savoir, notre méconnaissance des ingrédients essentiels de l'univers. Parce que la matière noire, on en pense ce qu'on veut, mais c'est quand même très pratique pour former des galaxies dans lesquelles nous sommes aujourd'hui.
ce qui est amusant, c'est qu'on ignore toujours autant la nature de ces choses, mais on peut affiner leurs proportions.
Exactement.
C'est ça qui est amusant. On connaît mieux les proportions de ce que l'on ignore. Et en particulier, donc, l'énergie noire se retrouve un peu moins importante que prévu, la matière noire un peu plus, et pour ce qui est de la matière visible normale, disons, elle est à peu près stable.
Voilà. Alors, pour vous corriger, pardon, pas que prévu, mais que les anciennes mesures, parce que si quelqu'un pouvait prédire la densité d'énergie de l'énergie noire et de la matière noire, qui nous appelle, je crois que c'est un petit peu difficile.
Alors, Aurélien Barreau, il y a beaucoup de débats autour de cette énergie noire, cette matière noire. Certains pensent qu'elle n'existe absolument pas, que c'est une création pure de l'esprit des physiciens qui sont peut-être un peu trop attachés au modèle actuel.
Je pense que c'est vraiment un procès qui est tout à fait déplacé. Tous les jours, on voit poindre de nouvelles tentatives d'explication. Il n'y a absolument aucun conservatisme. Tout est envisagé, y compris, bien évidemment, une remise en cause fondamentale de la théorie. Mais ce que je voudrais quand même dire, c'est qu'il ne faut peut-être pas se surfocaliser sur cette histoire de matière noire et d'énergie noire. Il y a une troisième énigme qui est peut-être un peu plus primitive ou primordiale encore que celle-ci à laquelle Planck permet de faire face, c'est l'énigme du Big Bang lui-même. Pas le Big Bang en tant que modèle générique d'univers en expansion qui aujourd'hui ne fait pratiquement plus doute, mais le Big Bang en tant qu'instant originel. Ça, finalement, c'est presque un impensable de la théorie, hein, ce qu'on appelle une divergence, comme ça, un lieu où les grandeurs mathématiques tendent vers l'infini. Ce n'est probablement pas une pathologie de l'espace-temps lui-même. C'est probablement plutôt une pathologie de nos théories. Alors, on dispose aujourd'hui d'un certain nombre de modèles qui permettent d'outrepasser cette situation énigmatique, mais ces modèles sont tous très spéculatifs. Théorie des cordes, gravitation quantique à boucle et quelques autres. Et ce que je trouve absolument remarquable, c'est qu'à l'ère des données du satellite Planck, il est possible, quoique absolument pas certain, mais il est envisageable que ces modèles extrêmement déconnectés jusqu'à maintenant de l'expérience entrent enfin de plein pied dans le champ de la science expérimentale. Il y a des prédictions qui sont faisables dans les théories de gravitation quantique qui, je crois, ne peuvent être aujourd'hui testées que par la cosmologie, et sur lesquels, sans aucun doute, Planck va mettre des contraintes. Donc effectivement, énergie noire, matière noire, on va en parler, j'espère, c'est fondamental. Mais encore en amont de ça, il y a le problème du Big Bang lui-même. Pour le dire simplement, le Big Bang n'existe probablement pas, finalement. Le Big Bang, c'est un fantasme d'extrapolation. Que mettre à la place? Ça, c'est une autre énigme, et sur ça, on aura peut-être des éléments de réponse.
Alors peut-être un tour de table, Aléry Azello, sur le Big Bang. Qu'est-ce que nous apprend Planck sur le Big Bang? Est-ce que ça remet en cause ou ça souligne notre incapacité à le penser?
Alors ça souligne le fait que les lois de la physique que nous connaissons ne sont pas suffisantes pour décrire cette phase-là, comme pour décrire d'autres points importants de l'histoire de l'univers, comme cette histoire de matière noire. Ce que Planck est capable de dire, c'est mesurer très précisément quelles étaient en gros les conditions initiales de ces vibrations que l'on observe dans le fond diffus et qui ensuite vont donner naissance aux galaxies et aux amas de galaxies. Et donc en mesurant très précisément finalement ce qui résulte d'un processus physique à déterminer, on va être en mesure de faire le tri entre ces différents processus. Aujourd'hui, on a d'excellentes raisons, qu'on ne va peut-être pas avoir le temps de détailler ici, de penser que l'univers a connu ce qu'on appelle une phase d'inflation, c'est-à-dire une expansion extrêmement violente très tôt dans son histoire. Grâce aux données de Planck, on est capable, sur un graphe, de positionner différents scénarios d'inflation et de dire ceux-là, ils sont compatibles avec les données, ceux-là ne le sont pas. Et puis, en ayant d'esprit un peu plus ouvert à des choses plus spéculatives, on peut espérer à plus ou moins long terme faire pareil pour d'autres théories. Et donc c'est ça qu'on est en train de faire, c'est-à-dire qu'avec des mesures de précision, on ne sait pas ce qu'on va trouver, mais on sait qu'on va tuer peu à peu un nombre croissant d'alternatives ou de possibilités qui ont été envisagées, y compris pour l'univers très primordial.
Alors, Nabila Aghadib, est-ce que pour vous, ça remet en cause certains des piliers? On a un peu l'impression que c'est le contraire et que finalement, cette expérience est à la fois merveilleuse, mais qu'elle ne fait pas progresser véritablement, ni les modèles, ni notre conception de l'univers, par exemple, à partir du Big Bang.
Non, je pense que je ne suis pas d'accord avec cette façon de présenter les choses, parce qu'effectivement, le mot-clé qu'utilisait Alain tout à l'heure, c'est faire le tri. On appelle ça dans notre jargon des diagrammes d'exclusion. Il y a une très grande créativité sur les possibles origines de l'univers, sur les différents scénarios d'inflation. L'inflation, c'est un mot qui cache une foultitude de modèles différents, dont les bases physiques sont différentes aussi, qui s'expriment différemment d'un point de vue des observables et d'un point de vue de la genèse de l'univers, avec comme élément commun cette phase d'expansion accélérée, très rapide, violente au début de l'univers. Et donc inflation, c'est en fait un espèce de mot cache-misère pour tout un pan du travail théorique sur les origines de l'univers et sur la cosmologie en général. Et toute cette multitude de modèles cachés derrière ce mot inflation ne sont pas tous possible de la même manière. Et c'est justement ce que Planck permet de faire à travers la mesure du rayonnement fossile, à travers une étude statistique très poussée, à travers une caractérisation précise de ce rayonnement, c'est de dire non, arrêtez, là c'est pas possible, c'est pas acceptable par la nature, en fait, par ce qu'on voit. Et ça l'est un peu plus. Et donc de quelque part restreindre un peu le domaine de recherche, mais et justement en le restreignant, de faire avancer la discipline, clairement. C'est ce qu'on fait avec la mesure précise du rayonnement fossile, et c'est ce qu'on va faire probablement encore mieux, comme le signalait tout à l'heure Hervé, l'année prochaine, en utilisant d'autres types d'informations du rayonnement fossile, comme la polarisation.
Vous écoutez Sciences Publiques sur France Culture, en direct depuis le studio 1061 de la Maison de la Radio. Nous débattons aujourd'hui de la question: que nous apprend le satellite Planck sur les origines de l'univers, avec Nabila Kadim, cosmologiste, chercheur au CNRS, à l'Institut d'Astrophysique Spatiale d'Orsay, Aurélien Barraud, astrophysicien et professeur à l'Université Joseph Fourier de Grenoble, Hervé Doll, astrophysicien maître de conférence à l'Institut d'Astrophysique Spatiale d'Orsay, et Alain Riazuelo, chercheur chargé de recherche au CNRS. Alors un mot peut-être sur les étapes suivantes, sur ce que l'on attend encore de Planck, que vient de signaler Nabila Ghanim. Alors quelles sont les autres données qui sont analysées actuellement à l'ère Riazuelo à partir des mesures déjà effectuées? Sachant que Planck, dans l'état actuel, a fini sa mission opérationnelle, si j'ai bien compris, au moins pour certains de ses
détecteurs français qui étaient le plus sensible, ne fonctionne plus puisqu'il n'y a plus de
carburant,
plus d'hélium pour le refroidir. Donc la prise de données est complète.
Et le deuxième instrument qui est italien, lui,
je crois qu'il est encore en état de marche.
Oui, il est encore en état de marche jusqu'en été au moins. Il a été ce qu'on appelle étendu, donc il a du financement pour continuer de prendre des données jusqu'à l'été, au moins.
Vu qu'il fonctionne à une température plus élevée que
l'instrument. Voilà, il est moins refroidi, donc il a une durée de vie plus longue. À l'ère Riazuelo, donc quelle est l'étape suivante? On parle de cette polarisation, de quoi s'agit-il? On attend de plus de Planck.
Quand vous voyez de la lumière qui se propage, vous avez en gros une petite vibration d'un champ électrique et d'un champ magnétique de concert. Et l'orientation de ce champ électrique et de ce champ magnétique, elle peut être préférentielle suivant certains axes, ou elle peut être un peu aléatoire. Dans le premier cas, on dira que le rayonnement est polarisé. Donc la polarisation, ça sert quand vous allez au cinéma pour voir certains films 3D, par exemple. On vous envoie deux lumières polarisées qui sont ensuite filtrées par des lunettes ad hoc, une devant chaque œil. Et donc il y a des processus physiques, en tout cas, qui produisent de la polarisation dans un rayonnement. Et donc ce fond diffus, il est très légèrement polarisé. Alors le très légèrement est en fait la source de bien des problèmes, parce qu'il est déjà difficile de mesurer les fluctuations de température de ce rayonnement, mais les fluctuations dans la polarisation sont encore plus faibles. Alors que tous les avant-plans qui existent, eux, ils peuvent être beaucoup plus polarisés. Donc c'est très difficile d'extraire de la science de ce signal de polarisation, mais ce signal de polarisation, il encode des informations supplémentaires à celles de température. Et un des graals que pourrait poursuivre Planck, mais on ne sait absolument pas s'il le trouvera, c'est que donc dans l'univers primordial, nous avons un processus qui a généré des fluctuations de densité dans l'univers primordial, mais ce même processus a probablement généré ce qu'on appelle des ondes gravitationnelles primordiales. Alors, des ondes gravitationnelles, on ne voit pas ça tous les jours, c'est des sortes de vibrations de l'espace lui-même. Et ces ondes gravitationnelles primordiales, on ne les voit facilement, disons, que par l'empreinte qu'elles ont dans la polarisation du rayonnement. Et donc, un des objectifs les plus ambitieux et les plus idéalisés de la mission, ce serait, dans ce signal de polarisation, d'arriver à voir la trace de ces ondes gravitationnelles. Parce que là, pour le coup, ça nous ferait... ça nous donnerait la possibilité de faire un tri beaucoup plus important parmi toutes ces idées qu'on a au sujet de l'univers très primordial pour expliquer finalement à quoi ressemble ce processus, inflation ou autre, qui a façonné l'univers tel que nous l'observons 13 milliards et demi d'années après.
Parce que le contexte, Hervé Dolle, c'est que plein de choses restent totalement incompréhensibles, que la physique est toujours partagée entre la physique des particules et le fameux modèle standard et la physique d'Einstein et du modèle et de la relativité générale, donc de la gravitation. Et quand on parle effectivement d'ondes gravitationnelles, c'est encore des choses qui restent à découvrir.
Alors, pour être formel, même si je ne suis pas mieux placé pour discuter de ça, les ondes gravitationnelles, on en a déjà observé des effets indirects autour de certains quasars, notamment, qui ont valu le prix Nobel de je ne sais plus qui, je ne sais plus quand, mais on devrait pouvoir retrouver facilement.
C'était Taylor en 93.
Merci, Alain. Mais, et la polarisation nous permettra de voir cela. En fait, la polarisation, c'est assez extraordinaire, parce que, comme l'esquissait Alain, c'est de la diffusion Thomson dont il s'agit, c'est-à-dire donc, les photons au moment de la dernière diffusion, donc un peu comme à la surface du Soleil, s'agissant de notre univers proche, ou à la surface du fond cosmologique, la polarisation encode les derniers instants de ce qui s'est passé au moment du fond cosmologique. Et il y a deux types de polarisation. Pour faire simple, il y en a un qui est sensible à la vitesse des structures, en gros à la vitesse de la matière qui s'effondre dans ce qui deviendra des amas de galaxies et des galaxies. Alors pour nous, c'est une mine d'or absolument incroyable. Et puis il y a un autre type de polarisation qui n'a pas la même symétrie, qui lui est sensible effectivement au passage des ondes gravitationnelles, de ce qu'on interprète comme des ondes gravitationnelles, et qui lui nous renseigne directement sur l'inflation. Donc pour le même prix, si j'ose dire, en mesurant la polarisation, ce qui est un défi indicible, on arriverait, en tout cas s'agissant des ondes gravitationnelles, à presque tout toucher l'époque de l'inflation. S'agissant des structures, on a déjà publié dans la série d'articles qui vient de sortir, une image qui montre que la polarisation qui est liée à la vitesse des structures marche déjà, parce que c'était je raconte pas les détails, on a fait une addition statistique, mais on voit déjà les structures formées dans les pics chauds ou froids de température du fond cosmologique, et quand on met la polarisation dessus, on voit que c'est exactement conforme avec les simulations et les prédictions, mais plus important, on voit vraiment les structures en train de tomber. Ça, c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Et peut-être dernier point juste pour la polarisation, il faut effectivement un gros travail de nettoyage, on appelle ça la séparation des composantes, qui permet de séparer tous les avant-plans. C'est très difficile, très compliqué. Ça permet, à contrario, d'aboutir à des découvertes pas forcément attendues. On a notamment découvert une molécule très très froide, bon, qui est connue depuis l'aube des temps, qui s'appelle la molécule de CO, qu'on a pu cartographier pour la première fois sur tout le ciel, justement en mesurant le fond cosmologique. Là, je parlais de la température. Mais les données en polarisation vont nous permettre, de facto, de mieux mesurer la polarisation de la poussière dans notre galaxie, parce que sinon, on n'arrivera pas à donner des contraintes cosmologiques. Donc un vaste chantier s'ouvre. Peut-être dernier point, si je peux, on ne garde pas les données dans la collaboration pour nous, pour le plaisir, c'est qu'il faut beaucoup de temps à ces centaines de chercheurs d'analyser, c'est très très difficile, et donc l'échéancier provient de la difficulté de l'analyse.
Alors Aurélien Barraud, quand on entend les différents membres de la collaboration Planck s'exprimer, on finit par oublier que l'on parle de quelque chose qui s'est passé il y a 13,5 milliards d'années et que l'on parle surtout de la totalité de l'univers. Qu'on a l'impression que c'est quelque chose de palpable à vous entendre, qui est quelque chose de simple qu'on a quasiment sur le bureau, alors qu'on est quand même dans des échelles totalement incommensurables.
Oui, c'est une difficulté absolument inouïe. Et moi, je suis béat d'admiration devant la qualité des données. Et ces ondes gravitationnelles que vous évoquiez à l'instant, il faut quand même bien expliquer pourquoi il s'agirait effectivement du Graal, comme le disait Alain Riazuelo. Parce qu'elles sont très peu couplées avec la matière. Ça signifie que l'univers est devenu extrêmement rapidement transparent aux ondes gravitationnelles. Donc on peut remonter encore beaucoup, beaucoup plus loin dans le passé, presque instantanément après le Big Bang, et ça évidemment c'est quelque chose d'extraordinairement motivant. On peut même peut-être faire un peu mieux dans les scénarios spéculatifs de théorie de gravitation quantique. Le Big Bang disparaît, hein, on commence à ouvrir l'autre côté du Big Bang, si tant est qu'une telle chose existe, hein, on n'a absolument pas la preuve à l'heure actuelle, et les ondes gravitationnelles ouvrent la possibilité d'une vision, ou au moins d'une sonde, de ce qui aurait pu advenir en amont même du Big Bang. Donc ça, ce sont des choses qui sont bien évidemment spéculatives, qui sont à venir, mais le jeu en vaut la chandelle, puisque là, l'enjeu est vraiment absolument fondamental du point de vue de la connaissance.
Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait vérifier certaines théories qui ont été présentées à une époque comme invérifiables, comme la théorie des cordes, certains la qualifiant même de philosophie plus que de théorie scientifique. Est-ce que ça, ce que vous dites, nous conduit à l'espoir de vérifier ce genre de théorie ?
La réponse est oui, avec quelques contraintes et quelques réserves. C'est-à-dire que la théorie des cordes dans son ensemble est tellement ramifiée et tellement vaste qu'il est très difficile d'obtenir une prédiction claire. Mais certains sous-secteurs de la théorie des cordes, par exemple les théories de pré-Big Bang, de cosmologie pré-Big Bang, ont effectivement des prédictions très claires en ce qui concerne le spectre et la production de ces ondes gravitationnelles. Les théories alternatives, par exemple celles des boucles, ont d'autres prédictions claires. Donc oui, je crois que ces modèles très difficiles à tester pourraient peut-être, dans la décennie à venir, via la cosmologie, intégrer enfin, par la petite porte, disons, le champ de la science expérimentale.
Alain Riazuelo, est-ce que ça veut dire que, pour l'instant, de toute façon, on n'a toujours pas vraiment progressé sur les grands schismes de la physique actuelle ?
On ne connaît pas plus la nature de la matière noire aujourd'hui qu'avant la diffusion des résultats de Planck. On ne sait pas mieux aujourd'hui qu'avant pourquoi il y a de l'énergie noire et pourquoi il y en a si peu par rapport à l'estimation naïve qu'on pensait avoir. Donc oui, effectivement, il y a des...
En revanche, l'univers est un peu plus âgé qu'on le pensait.
Oui, bon, ça, c'est pas, ça ne gêne personne, je pense.
On met rien en cause. On a gagné 100 millions d'années, quelque chose comme voilà, ça. Voilà. Ce n'est pas effectivement bouleversant.
Voilà, mais c'est moins de 1%. Donc,
c'est à l'image du changement d'heure de ce week-end.
Il y a un certain nombre de questions prégnantes qui restent à résoudre. Le fait qu'on ait un modulo ces inconnus, une modélisation quand même extrêmement efficace de l'univers, nous convainc, comme on disait tout à l'heure, que le socle sur lequel on fait reposer tout ça, c'est plus que du vent, voilà. C'est plus que des hypothèses, la matière noire et l'énergie noire, par exemple.
Nabil Agadib ?
Oui, en fait, je voudrais peut-être juste mentionner le fait que on a un seul univers, alors ça nous gêne pas mal finalement dans notre analyse, hein. On appelle ça la variance cosmique, en fait, la limite qu'on a.
Il faut faire rien, avoir deux pour comparer.
Ça, voilà, exactement. Voire plus, ce serait statistiquement un peu plus intéressant.
Une centaine serait pas mal.
C'est de l'ordre de grandeur.
Là, en fait, hein. Simplement, on ne les voit pas.
Aurélien Barraud, lui, est tenant des multivers.
Il y a de ça, c'est vrai. En tout cas, on a un univers observable aujourd'hui, on va dire, et c'est un petit peu gênant. Par contre, on a un univers observable qu'on peut observer d'abord en différentes couleurs, à différentes longueurs d'onde et différentes fréquences, qu'on peut observer avec plusieurs sondes, on appelle ça des sondes donc ou des observables. On peut observer l'univers à travers les perturbations, les irrégularités de sa température, à travers les irrégularités ou la polarisation directe. On peut l'observer à travers la distribution des galaxies, la distribution des amas de galaxies, la distribution des galaxies dans toutes les couleurs, hein, optique, infrarouge, radio, enfin bon, là après, vous pouvez faire le choix. Et tout ça doit être cohérent. Et finalement, un modèle cosmologique, c'est un modèle qui marche, pardon, c'est un modèle cosmologique qui permet en même temps de expliquer pourquoi il y a un début et comment on arrive à ce qu'on a aujourd'hui, comment on arrive au nombre de galaxies qu'on voit, comment on arrive à avoir des galaxies qui sont accolées les unes proches des autres, alors proches aux échelles astronomiques, hein, bien sûr, comment elles sont assemblées, comment elles sont agrégées. Et tout ça doit être pris en compte dans quelque chose qui est cohérent et qui fait du sens, pour le dire en anglicisme, du début à la fin. Et c'est ça la complexité de la cosmologie. C'est pas simplement la théorie de l'inflation pour dire oui il y a ça ou il y a pas ça. En fait, il faut tout développer ces perturbations jusqu'à aujourd'hui, quoi.
Hervé Dolle, pour vous, le fait d'observer le Big Bang d'encore plus près est une perspective à laquelle vous croyez? Voire alors, avant le Big Bang, sans d'ailleurs entrer dans des considérations sur certains écrits dans ce domaine.
Alors déjà, je crois à pas grand-chose, pour être très clair. Je suis plutôt observateur plutôt que théoricien, donc j'aurai un petit peu de mal à répondre à cette question, mais mon credo, c'est...
Voilà. Vous voyez, vous croyez à quelque chose.
Un partout, la balle au centre. C'est de développer des satellites, des analyses qui confrontent les modèles existants. Et c'est pour ça qu'il y a autant de richesses dans des théories nouvelles, voire encore non falsifiables, que l'on cherche à
réfuter.
Réfuter, merci, ou à confirmer. Que dans la conception d'instruments qui permettent de confronter les deux. Et peut-être juste un point, ce dont on parle depuis tout à l'heure, l'observation du fond cosmologique, des avant-plans, les implications sur l'inflation, sur la composition de l'univers, tout cela n'a du sens que dans le cadre d'un modèle qui va peut-être évoluer, mais la confrontation des deux est absolument centrale. Donc, bien que je sois observateur et que les théories soient peut-être compliquées à certains égards, les deux doivent se parler.
Très bien, merci beaucoup. Le débat de Sciences Publiques d'aujourd'hui s'achève. Merci à Nabila Aghanim, Aurélia Barraud, Hervé Dolle et Alain Riazello d'y avoir participé. Sur le site de Sciences Publiques, vous trouverez les références de sites et d'ouvrages sur le satellite Planck et les origines de l'univers, en particulier le livre d'Aurélia Barraud, intitulé Big Bang et au-delà, balade en cosmologie, qui vient de paraître chez Dudo. Toujours sur notre site, vous pouvez réécouter cette émission pendant 1000 jours et la podcaster pendant un mois. La semaine prochaine, vendredi 5 avril, Sciences Publiques vous proposera une émission spéciale enregistrée le 25 février 2013. Nous avons profité de la venue à Paris de Douglas Hostetter pour réaliser cette émission à l'occasion de la parution chez Odile Jacob de son nouveau livre, écrit avec Emmanuel Sander. Pour les deux auteurs, l'analogie est au cœur de la pensée, comme l'indique le titre de leur ouvrage. Selon eux, nous fabriquons tous nos concepts, depuis les plus simples comme celui de maman, en comparant des situations entre elles. Ce mécanisme serait ainsi au centre de nos modes d'apprentissage du monde qui nous entoure, une thèse qui pourrait être utilisée entre autres pour revoir en profondeur les méthodes d'enseignement. Douglas Hostetter s'est fait connaître dans le monde entier avec son ouvrage intitulé Gödel et Scherbach, Les bras d'une guirlande éternelle, publié en 1979 aux États-Unis. Vous pourrez l'entendre expliquer avec son co-auteur Emmanuel Sander pourquoi il considère aujourd'hui que l'analogie est au cœur de notre pensée. Sciences Publiques, Lionel Quentin, Vincent Ronet, Michel Alberganti, Marie Dalquier et à Grenoble, Gérard Coste. La science continue sur France Culture avec lundi prochain à 14h l'émission Continent Science de Stéphane Denis-Georges. Et pour l'instant, il est bientôt 15h. Nous vous laissons en compagnie d'Adelhad Debded pour Culture d'Islam. Merci à tous. Excellent après-midi sur France Culture et à la semaine prochaine.